Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, le dogme que nous célébrons aujourd'hui a été promulgué de façon solennelle par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Il publia à cette occasion la magnifique encyclique Ineffabilis Deus, qui contient la définition du dogme que nous fêtons aujourd'hui et dont voici la teneur, voici la déclaration du pape Pie IX dans cette encyclique. Nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche du péché originel, est révélée de Dieu et par conséquent qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Voici le dogme révélé, promulgué par Pie IX. Marie donc, seule, par une faveur unique, a été absolument préservée de la tâche originelle. Il en a été de sa conception immaculée, comme de son privilège de Vierge Mère. Nec primam similem visaes nec habere sequentem. Il n'en a été vu ni de semblable avant ni après. Moins de 4 ans après cette définition magistérielle, Notre-Dame elle-même venait confirmer en notre terre de France cette définition dogmatique et se nommait elle-même à Bernadette « Quessoi era immaculada conceptio ». Je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Si le pape a défini cette vérité surnaturelle comme dogme de notre foi, c'est qu'elle était contenue dans le dépôt révélé confié aux apôtres. Elle a donc toujours, toujours été professée dans la Sainte Église. Et c'est ce que le pape montre dans son encyclique. Il commence par apporter le témoignage de la liturgie, qui est la règle de la foi, lex orandi, lex credendi. L'Immaculée Conception a en effet été fêtée dans l'Église depuis très longtemps, au plus tard dès le 8e siècle. Le pape donne ensuite les déclarations des souverains pontifes, notamment celle d'Alexandre VII, pape de la fin du XVIIe siècle. C'est assurément, affirme Alexandre VII, une ancienne croyance que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dès le premier instant où elle a été créée et unie à son corps, a été par un privilège et une grâce spéciale de Dieu préservée et mise à l'abri de la tâche du péché originel. C'est une ancienne croyance, une ancienne croyance. Pie IX s'étend surtout sur le témoignage des anciens et des pères. Il revient constamment, l'expression tourne, tout au long de l'encyclique, sur ce témoignage des anciens et des pères. On sent une grande piété du pape Pie IX pour les anciens écrivains ecclésiastiques. Il recueille dans toute l'encyclique, avec une grande piété, les passages de la Sainte Écriture que ces anciens ont commentés et appliqué à l'Immaculée Conception. L'un des passages les plus importants est assurément le protévangile. Alors qu'Adam et Ève viennent de commettre le premier péché sous l'instigation du diable, ayant pris la forme d'un serpent, Dieu relève l'espérance de toute la race humaine par ses paroles. « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. » Dieu annonce ici clairement qu'il enverra un rédempteur, un sauveur du genre humain, qui sera son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Il désigne également, dans une même et unique révélation, qu'une femme mettra au monde ce Messie qu'il vient d'annoncer, la bienheureuse mère, la Vierge Marie, ainsi que l'inimitié de l'un et de l'autre contre le serpent, contre le diable. Le pape ajoute même ces paroles très fortes. Voici ce que dit le pape Pie IX. En sorte que comme le Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, détruisit, en prenant la nature humaine, l'arrêt de la condamnation qui était contre nous et l'attacha triomphalement à la croix, ainsi, la Vierge Marie, unie étroitement, inséparablement à lui, fut par lui et avec lui l'éternel ennemi du serpent venimeux, le vainquit, le terrassa sous son pied virginal et sans tache, et lui brisa la tête. Viennent ensuite dans l'encyclique d'autres figures bibliques, données par les pères pour louer l'innocence de la Vierge Marie, sa pureté, sa sainteté, son exemption de tout péché. Tout d'abord, l'arche de Noé, qui, édifiée par l'ordre de Dieu, a seule complètement échappé au naufrage du monde entier. Ainsi, Notre-Dame a seule échappé à la contamination du péché originel. Notre-Dame a aussi été vue dans le buisson ardent que Moïse vit brûler au Sinaï et qui, loin d'être consumé par les flammes, loin même d'en éprouver la moindre altération, n'en était que plus vert et plus florissant. Image de sa virginité et de son impeccabilité de tout péché, y compris du péché originel. Il y a encore cette tour inexpugnable à l'ennemi, décrite dans le Cantique des Cantiques, du haut de laquelle pendaient 1000 boucliers et toute l'armure des forts. Il y a également, toujours dans le Cantique des Cantiques, le jardin fermé, décrit comme ne pouvant être profané, ne craignant ni les souillures ni les embûches. Le pape donne encore deux autres figures tirées de l'Écriture, la cité de Dieu, tout étincelant de clarté et dont les fondements sont assis sur les montagnes saintes, et également, autre figure, l'auguste temple de Dieu, tout rayonnant des splendeurs divines et tout plein de la gloire du Seigneur. Toutes ces figures s'appliquent à Notre-Dame, forte, comme une armée rangée en bataille, contre le démon et le péché. Son âme et son cœur sont également le temple le plus auguste, le plus saint dans lequel Dieu aime à se reposer. Mais Pie IX ne s'arrête pas là. Il donne encore deux derniers arguments tirés de la Sainte Écriture, sur lesquels il s'attarde particulièrement. Pour commencer, la plénitude de grâce de Notre-Dame, révélée par l'ange Gabriel quand il apparut à Marie, c'est l'évangile d'aujourd'hui, et qu'il la nomma pleine de grâce. Je vous salue, pleine de grâce. Les pères et les auteurs anciens ont enseigné que par cette solennelle salutation, la Mère de Dieu nous avait été montrée comme le siège de toutes les grâces divines, ornée de toutes les faveurs de l'Esprit Saint, bien plus, comme un trésor presque infini de ces mêmes faveurs, comme un abîme de grâce et un abîme sans fond, de telle sorte qu'elle n'a jamais été soumise à la malédiction originelle. Dernière image, l'antithèse entre Ève et Marie. Cette comparaison revient très fréquemment sous la plume des anciens auteurs et est un argument des plus forts. Ils se sont plu, en effet, afin d'établir l'innocence et la justice originelle de la Mère de Dieu, de la comparer avec Ève. Cette dernière obéit au serpent, l'ange mauvais. Elle perdit l'innocence originelle et devint l'esclave du démon. La Vierge bienheureuse, au contraire, croissant toujours sous la grâce originelle, ne prêta jamais l'oreille au serpent, ce qui ébranla profondément sa puissance et sa force. Au contraire, elle obéit au bon ange et se soumit à Dieu, gagnant la vraie liberté. Il est donc assuré que la conception immaculée de la Vierge Marie a toujours été professée dans l'Église et fait donc partie du dépôt révélé et confiée par les apôtres à l'Église. Il nous faut cependant maintenant nous poser une autre question. Comment Notre-Dame a-t-elle pu échapper à la malédiction du genre humain? Elle qui, bien que choyée de Dieu de façon particulière, n'en reste pas moins une fille d'Adam. L'encyclique nous a déjà répondu dans la promulgation du dogme, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain. Cela mérite cependant quelques explications. Les autres hommes, avant la venue de notre Seigneur, étaient lavés du péché originel par la foi au Messie à venir et en son sacrifice rédempteur. Et chez les Juifs, pour les hommes en tout cas, par la circoncision qui signifiait cette rédemption par le sang. Depuis la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix, le seul moyen est le baptême d'eau ou de sang, ou au moins le désir sincère de recevoir le baptême, et par le baptême d'être plongé dans la mort et dans le sang de notre Seigneur pour être lavé du péché originel. Dans tous les cas, les mérites de la rédemption sont appliqués sous forme de remède, c'est-à-dire pour guérir et réparer les ruines causées par le péché. Nous naissons malades, viciés, et nous avons besoin d'être lavés par un remède qui est le baptême. Il en fut tout autrement pour la Vierge Marie, à qui ses mérites furent appliqués non comme un remède, mais comme un antidote, avant la souillure, et qui la préserva de toute corruption, de toute souillure. Cette seconde espèce de rédemption l'emporte de beaucoup en excellence et en sublimité sur la première. Le péché n'eut aucune prise sur elle, ni ne laissa en elle aucune de ses suites déplorables, de telle sorte que s'est réalisée la prophétie davidique « Non gadibit inimicus meus super me »« Mon ennemi ne s'est pas réjoui contre moi ». Pourquoi un tel privilège? La réponse est simple. Dieu l'a destinée de toute éternité à devenir la mère du Verbe incarné. Elle devait fournir à la seconde personne de la Trinité la substance même de son corps, afin que l'incarnation et ses admirables effets puissent s'accomplir. Et ainsi, elle contracta les liens les plus étroits qui soient pour une simple créature avec la divinité, après notre Seigneur, bien entendu, après l'humanité, notre Seigneur. Elle est en effet devenue la mère au sens le plus propre qui soit, de la seconde personne de la Trinité, selon la génération humaine, non divine, bien sûr. Elle est mère de Dieu et elle est unique en son genre. Nulle créature ne peut prétendre à une telle faveur. Il convenait donc au plus haut point, au Père éternel, que sa fille bien-aimée ne fût jamais son ennemi, au Fils, que sa mère ne fût jamais viciée dans la chair et le sang qu'elle aurait à lui communiquer, au Saint-Esprit, que son épouse fût toujours belle, de cette beauté de la grâce, toujours toute pure, toujours toute sainte. Il est temps maintenant de tirer quelques leçons pour nous. Il nous faut en tout premier lieu rendre grâce à Dieu d'avoir comblé sa mère de tant de privilèges, de tant de grâces, de tant d'amour. Il faut admirer les œuvres de Dieu. Et quoi de plus admirable que la mère du Sauveur, si belle et si pure? Il nous faut contempler les trésors de grâce enfermés dans son cœur immaculé. Autre leçon qu'il nous faut tirer, le rejet de tout naturalisme. C'est le mal qui vicie notre siècle au plus profond, à la racine. C'est ce climat malsain qui baigne toute notre vie sociale, C'est le grand mensonge que distille le diable quotidiennement, selon lequel les aspirations de notre nature seraient bonnes et en conséquence, le but de nos vies serait seulement de satisfaire les tendances de notre nature. Rien n'est plus faux et rien ne conduit plus sûrement au pire malheur en cette vie et dans l'autre. Cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie nous rappelle avec grande force que si Notre-Dame a été préservée de tout péché, il n'en est pas du tout de même pour nous, qui sommes tous nés ennemis de Dieu, souillés, maculés par le péché originel. Le baptême a pu certes nous laver de cette tache, mais il n'en reste pas moins vrai que nous en avons gardé des blessures qui vicient nos passions, notre intelligence et même notre volonté. D'où l'importance de prier pour être soutenu par la grâce de Dieu. L'importance aussi de se méfier des premiers mouvements de notre sensibilité. D'où l'importance de l'examen de conscience pour faire le bilan de nos journées et prendre de bonnes résolutions pour se corriger de nos mauvaises habitudes et ainsi accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes faits pour le ciel, pour participer au bonheur même de la Sainte Trinité. Dès ici-bas, Dieu veut nous donner un avant-goût de ce bonheur par la grâce, qui est une participation réelle à sa vie divine. Mais nous portons ce trésor dans des vases fragiles. Il y a en nous des forces de mort qui nous tirent vers la terre, qui nous tirent vers l'enfer. Seule une vie de combat contre nos aspirations naturelles viciées par les blessures du péché originel nous permettra de jouir du bonheur du ciel et du bonheur dès ici-bas, par la grâce, par l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, que l'Immaculée Vierge Marie nous fasse vivre dans cet esprit surnaturel, nous protège aussi de toutes les embûches du diable et nous conduise au port du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.